Et oui, après ces Toulousains qui ont fait l'histoire, les éditions Papillon Rouge nous proposent un livre qui met les femmes à l'honneur cette fois, celles de toute la région. Le livre s'intitule « Femmes inouïes en Occitanie ». Le co-auteur du livre et par ailleurs fondateur des éditions Papillon Rouge est en ligne. Bonjour Hubert Delobette.
Bonjour.
Merci d'être avec nous de bon matin. Alors, place aux femmes, elles sont 30 à être rassemblées dans ce livre. Comment est-ce qu'il est né d'ailleurs cet ouvrage ?
Oh, il est né à la lecture d'un ouvrage de médecine que je parcourais. Voilà, et il y avait le portrait d'une jeune femme qui s'appelle Madeleine Bresse, qui a été la première femme médecin de France. Et bon, j'ai pas mal labouré la région occitanienne, étant un ancien journaliste, et je connaissais pas du tout cette femme. Alors ça m'a vraiment intrigué, et j'ai découvert un personnage absolument extraordinaire qui m'a donné envie de raconter sa vie. Puis j'y ai raccroché la vie d'autres femmes qui a eu un destin exceptionnel dans notre région.
Alors vous nous en donnerez quelques lignes tout à l'heure de cette de femme
avec
extraordinaire,
plaisir.
Cette médecin Madeleine Bresse. C'est quoi le lien entre toutes ces femmes? C'était quoi le critère pour figurer dans ce livre? Peut-être que le choix n'a pas été simple à faire d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, il y avait vraiment beaucoup de personnages. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs critères. Alors, déjà, une certaine diversité, il fallait qu'on retrouve des femmes, issues de la culture, de l'entreprise, des religieuses, des aventurières, des femmes d'affaires, voilà. Et puis surtout, des personnages assez contemporains, 19e, 20e siècle, qui sont nés en Occitanie ou qui ont vécu assez longtemps. Et puis, voilà, avec comme critère, évidemment, d'avoir une vie extraordinaire, hors du commun, des femmes qui aient fait bouger les lignes, souvent pour un peu plus d'équité entre les hommes et les femmes.
Et oui.
Voilà.
Et alors, on lit dans votre avant-propos quelque chose qui, effectivement, peut étonner. C'est l'idée que l'Occitanie a offert très tôt un statut particulier aux femmes, hein.
Oui, alors ça c'est vraiment extraordinaire. C'est le grand historien le roi Ladurie qui a beaucoup écrit là-dessus. Et c'est vrai que dès le 12e, 13e siècle, les femmes occitanies avaient un statut spécial, libre, avec une autonomie, une émancipation qui était beaucoup plus importante que dans le reste du pays, puisqu'elles pouvaient hériter de leurs parents comme leurs frères, même si elles n'étaient pas l'aînée. Elles avaient un statut de chef de famille. Elles pouvaient vendre, acheter des biens, des maisons, des propriétés. Le roi Ladurie raconte bien que quand il a travaillé dans les archives, on voyait à l'époque beaucoup de femmes qui avaient des commerces, qui étaient artisans, alors que c'était pas du tout le cas dans le reste des autres régions de France. Elles avaient donc des droits beaucoup plus libres. Et bon, malheureusement, après, ça sera gommé un peu plus tard avec le rattachement de la province d'Occitanie à la France, qui était un état très centralisateur, très jacobin. Mais vraiment, il y avait une égalité homme-femme qu'on connaissait vraiment pas dans beaucoup d'autres pays.
Et c'était effectivement en terre occitane, dites-vous, que les troubadours et l'amour courtois est né également. Ceci explique peut-être cela d'ailleurs.
Voilà, c'est vrai. C'est sur nos terres que sont qu'est née cette tradition du troubadour, avec on chantait l'amour entre les hommes et les femmes, on chantait la liberté, la douceur de vivre, et je crois qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment ici sur notre pays
cette spécificité.
Voilà. Exactement.
Alors on va le parcourir, le picorer, parce que ce sont vraiment des portraits qui se picorent, c'est le thème, au gré de nos envies, on peut choisir tel ou tel. Alors pour commencer, on a parlé de femmes pionnières, et notamment en termes de droits, difficile de ne pas commencer si on parle sur cet angle-là, par celle que vous présentez comme l'icône du féminisme et de l'humanisme. Évidemment, là quand je vous dis ça, vous me dites évidemment
Olympe de Gouges.
Et voilà. Elle est originaire de Montauban, cette femme.
C'est ça, originaire du Tarn-et-Garonne, donc de Montauban, issue d'une famille bourgeoise de commerçants, de bouchers. Ils ont une grosse boucherie, voilà. Et malheureusement, on marie de force cette pauvre Olympe à un client de la boucherie familiale et qui est beaucoup plus âgé, qui lui fait un peu horreur, dont elle aura un fils.
Ouais.
Heureusement pour elle, si j'ose dire, son époux meurt assez vite, elle le détestait quelques années plus tard. Et elle va partir pour Paris rejoindre sa sœur. Et c'est avec cet épisode parisien qu'elle va devenir plus tard une icône du féminisme, puisqu'elle va écrire beaucoup de pièces de théâtre et de textes engagés pour le féminisme, avec par exemple des essais où elle raconte qu'elle est pour le droit au divorce des femmes, pour qu'il y ait les femmes puissent hériter. Elle écrit aussi pour l'abolition de l'esclavage, contre la violence, de la terreur qui sévit puisqu'elle arrive à l'époque de la Révolution française. Et son texte, voilà, son texte le plus connu sera la Déclaration des droits de la femme et du de la citoyenne. Voilà.
Oui, et ça sera en 1791 qui lui causera effectivement quelques tracas par la suite. Hein.
Eh oui, la pauvre, elle va effectivement, tous ses écrits sont considérés comme subversifs par le pouvoir à l'époque. Ils vont la conduire en prison, elle va rester quelques mois à la conciergerie dans des conditions sanitaires effroyables, hein, sans lumière, sans hygiène, il fait très froid. Hein. Et 15 jours après, la reine Marie-Antoinette, elle va passer sous la guillotine le 3 novembre 1793. Hein,
voilà
pour dessiné pour cette femme.
Pour cette femme qui avait érigé les droits des femmes en lettres d'or. Alors, pas de femme ici, nom de Dieu, la science se fait entre hommes. À entendre cet éminent professeur de la Sorbonne qui peste devant des étudiantes dans son laboratoire de physique, il semble que le combat d'Olympe de Gouges ne soit pas totalement gagné, et pourtant on est un siècle après. C'est une femme, vous nous en avez parlé au début de cet entretien, qui avait commencé à faire bouger les lignes. Je veux parler de Madeleine Bresse, la première femme médecin de France. Qui était-elle?
Vous avez raison, c'est un siècle après, mais les choses n'ont pas beaucoup changé.
Et non, hein.
Alors là, j'adore moi ce personnage, parce qu'elle est née en 1842 dans un petit village du Gard, à Bouillargues. Son père est fabricant de charrettes. Il fabrique aussi de temps en temps des brancards en bois qu'il amène à l'hôpital de Nîmes. Et il amène avec sa petite fille, avec Madeleine, qui découvre un univers à la fois terrible, hein, parce qu'on est bon, voilà, en 1850, un hôpital à l'époque, cette époque-là, c'est pas la joie. Mm-hmm. Mais bon, les sœurs qui la prennent sous son aile, lui apprennent à donner un peu de bouillon aux malades. Enfin bon, elle découvre un univers qui la passionne.
On la retrouve vocation 20 ans... en fait, hein.
Et oui, c'est ça, la vocation née là. Et 20 ans plus tard, bon, elle est à Paris. Là aussi, on l'a mariée à 15 ans avec un conducteur de tramway qui est originaire du village, mais qui est allé travailler à Paris. Elle a 3 enfants. Bon, elle est presque pas allée à l'école. C'est une petite paysanne provinciale pauvre. Les études de médecine sont interdites aux femmes, même le baccalauréat. Et là, elle désire complètement fou.
Même en Occitanie. Devenir...
Et ouais, elle veut devenir médecin. Voilà. Et bon, alors évidemment, il y aura une montagne à franchir. Hein. Je vous passe tous les détails, mais ça va être terrible. Et elle va y arriver quand même en 1871, alors que voilà, son mari vient de mourir, elle a 3 enfants en bas âge, l'hôpital où elle travaille est bombardé parce que c'est la guerre franco-prussienne. Elle est à 2 doigts de recevoir une bombe, enfin, alors qu'elle est dans la salle de soins. Enfin, mais je vous jure, elle traverse des épisodes assez incroyables. Et elle devient donc en 1875 la première femme médecin de France. Voilà, et elle va poursuivre une carrière assez brillante, puisqu'elle va être pionnière aussi dans l'installation de crèches en France, dans l'éducation des jeunes enfants. Et elle va mourir finalement aveugle, oubliée de tout. Ça fait un destin assez triste aussi.
Alors ça, c'est le destin de Madeleine Bresse. Et il faut noter quand même, j'ai commencé à vous en parler de cette femme avec cette phrase « Pas de femme ici, nom de Dieu, la science se fait entre hommes », hein, qui était celle d'un professeur de la Sorbonne. Ça sera quand même un autre, ça sera quand même le doyen d'une faculté de médecine, hein, le Charles Adolphe Wurtz, un Alsacien qui lui donnera sa chance tout de même, malgré tout. On va rendre à César ce qui est à César et redorer un peu le blason des hommes dans cette affaire-là. Hein. Alors, autre sacrée bonne femme, probablement la plus audacieuse, hein, courageuse en tout cas, je veux parler d'une dompteuse de lions, Hubert de Blobelette.
Oui, vous avez raison, vraiment, quand vous dites audacieuse, je suis bien d'accord avec vous, puisque ça va être une pionnière dans le domptage des fauves, puisqu'elle est l'une des toutes premières femmes, hein, à descendre dans une cage au lion, dès l'âge de 14 ans, et on la verra notamment en photo, même sur des posters, des affiches de l'époque. Elle sera la seule femme au monde à être dans une cage avec 10 lions et 2 tigres en même temps. Enfin, c'est un exploit assez incroyable qui a pas été renouvelé. Jeannette MacDonald, elle est née à 1918, elle va connaître une carrière assez remarquable, puisqu'elle sera dompteuse chez Amar, Pender, Bouglione, enfin les grands cirques de l'époque. Elle est audacieuse, comme vous le disiez tout à l'heure, puisqu'elle va créer aussi un cirque dans les années 60, qui va malheureusement brûler à Alger de manière accidentelle. Donc elle rentre avec tous ces animaux. Elle va créer un zoo à Buzet-sur-Tarn, hein, en Haute-Garonne. Elle est aussi, j'ai oublié de le dire, l'amie de l'abbé Pierre.
Et oui, elle va lui donner une caravane, je crois, hein.
C'est ça. Durant l'hiver, le fameux hiver 54, elle va lui fournir des roulottes et régulièrement, elle va l'aider en faisant des petites représentations, enfin pour donner des fonds à l'abbé Pierre, qui plus tard d'ailleurs le lui rendra bien, en lui offrant aussi une main secourable. Puisqu'en fait, ce zoo qu'elle crée à abuser, il va petit à petit dépérir parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, les animaux sont pas dans une forme éblouissante. Il y aura un procès retentissant de Brigitte Bardot contre elle, à cause d'animaux qui sont pas assez soignés. Donc en plus voilà, après sa caravane dans laquelle elle vit brûle à son tour, disons elle a pas de chance avec des feux. Et en 99, donc elle rentre dans une maison de retraite à Grenade, et où elle mourra assez rapidement, puisqu'elle disait toujours que sa vie c'était au milieu des animaux. Et ce qui est assez touchant, c'est qu'on la retrouvera morte, elle est morte dans son sommeil, avec un lion en peluche dans les bras. Oh. Voilà, je trouve ça assez touchant.
C'est touchant, ouais. Effectivement. Alors moi, ma préférée, c'est probablement la moins conventionnelle de toutes. Ça commence comme une belle histoire et puis ça se termine mal, mais on le voit finalement, ça se termine toujours assez mal. La moins conventionnelle, pour moi, c'est Pauline Bellil. Elle a un destin absolument incroyable. L'intitulez Notre-Dame de Lorient. J'aimerais qu'on s'y arrête un peu plus.
Oui, alors là, c'est vrai que c'est des destins. Comme on voudrait en faire un roman, gens diraient il y a un peu trop de fiction, mais ouais. Mais c'est vrai que oui. C'est... Alors, elle naît en Ariège en 1780, en France classique, dans un milieu
couturière. Elle est couturière.
Couturière. C'est ça. Elle est couturière et puis elle trouve un poste ensuite à Carcassonne, donc comme dans un atelier de modiste où elle apprentit modiste. Et là, elle fait la connaissance d'un sergent, de militaire dont elle tombe amoureuse, classique, Mais patatras, ce monsieur Fourest dont elle est amoureuse, avec qui elle se marie, doit partir en 1798 pour la fameuse expédition d'Égypte de Napoléon, une grande expédition, accompagnée de plein de savants. Et ils décident tous les deux, là, les jeunes tourtereaux, les jeunes mariés, de pas se quitter. Et elle décide de s'habiller en homme pour suivre son mari. Elle se déguise, pour être embauchée comme mousse sur le bateau qui part en Égypte. Mais patatras, à l'arrivée, la supercherie est découverte, l'arrivée au Caire. Alors Napoléon est informé, évidemment, il renvoie le sergent et il fait venir cette jeune effrontée, Pauline, pour savoir, qui a osé s'incruster, comme on pourrait dire, dans son armée et se déguiser. Et finalement,
il s'en éprend.
Il renvoie
le mari et il garde la Pauline.
Voilà, c'est ça. Il renvoie le mari, il garde la jeune épouse. Il en est amoureux, d'autant plus qu'à cette époque, sa femme Joséphine le trompe à Paris. Enfin bon, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant avec Joséphine. Donc, il reporte son amour, son affection sur la jeune Pauline. Et ils vont vivre ensemble quand même près d'un an, en Égypte. C'est sa maîtresse et sa femme attitrée qui l'amène partout, avec qui il va avoir un enfant. Il n'y arrive pas là non plus. Et finalement, il repart en France pour rejoindre Joséphine, et puis il va gravir les échelons pour procéder au destin de la France. Et Pauline finalement rentre en France, retrouvera un peu Napoléon, mais qui est parti maintenant sur d'autres chemins de traverse. Mmh. Et son destin, elle va encore embrasser un destin assez incroyable, parce qu'elle va partir au Brésil, elle va faire fortune dans l'import-export de bois précieux, elle épouse un aristocrate de là-bas, enfin une vie...
Une vie rocambolesque. Alors il y en a d'autres qui ont des vies rocambolesques, à l'image de cette Pauline Bellil, il y a, mais on n'a plus le temps pour en parler, il y a celle qu'on appelait la Bégum, qui s'est mariée avec l'Agacan, elle aussi de petite extraction, qui finit par avoir un destin hors norme, et puis il y en a d'autres. Il y a celle plus simple, mais qui va sauver la vie de 600 enfants. Je veux parler d'Elisabeth Hayden-Benz. Hubert de Lobette, vous avez donné à voir le destin d'une trentaine de femmes. Il n'y a pas de contemporaines. Pourquoi donc ?
Eh bien, on a pris des femmes qui ont été... qui soit décédé, tout simplement parce que quelquefois on peut avoir des surprises avec des personnages qui seraient encore vivantes. Donc une fois que malheureusement elles ont rejoué le Tout-Puissant, on peut raconter leur histoire en étant sûr qu'il n'y ait pas de problème après. C'est un peu le cahier des charges, Et puis c'est surtout 18-19e, début du 20e, là, que ces femmes ont eu beaucoup d'efforts à faire. Souvent, c'était très difficile. Elles avaient la même, le pouvoir masculin en place et qui leur barrait la route. Donc, c'était peut-être un peu plus intéressant de raconter des destins, hors du commun.
C'est plus facile, peut-être, effectivement, de s'illustrer aujourd'hui. Un grand merci, en tout cas, de nous en avoir donné un aperçu. Ces 30 beaux portraits de femmes d'Occitanie qu'il vous faut lire dans ce livre. C'est aux éditions Papillon Rouge. Hubert de Lobette, vous en êtes l'un des co-auteurs. L'autre s'appelle Philippine Arnal Roux. Un grand merci à vous.
C'est moi qui vous remercie, c'est moi.